Et moi, je vous invite à trouver vos Bibles et nous allons lire un récit en Actes chapitre 6. Jusqu'à présent, dans notre assemblée, nous avons commencé simplement et puis petit à petit, le Seigneur nous a bénis. Nous sommes dans une salle que le Seigneur, dans sa grâce, nous a donnée. Ce ne vient pas de nos moyens. Et nous voulons nous conformer autant que possible au modèle que Dieu nous donne dans sa parole. La Bible parle de l'Église du Nouveau Testament. Elle parle essentiellement de deux fonctions dans une Église locale. La fonction qui a plusieurs noms, appelé ancien, appelé aussi pasteur ou par le verbe plus souvent de paître. Aussi, c'est appelé évêque ou surveillant. En fait, c'est le même mot grec, mais traduit différemment, ça dépend de la traduction. Donc ça, c'est une fonction, et l'autre fonction, c'est la fonction de diacre. Et en acte 6, nous n'avons pas des diacres en soi, on ne les appelle pas les diacres, on va les appeler les sept. Nous n'avons pas non plus vraiment des pasteurs anciens, ce sont des apôtres. Mais en lisant, je crois que vous verrez que le ministère que ces hommes occupent, la fonction qu'ils ont, il y a un lien très étroit avec ce qui sera plus tard établi dans les épîtres par l'apôtre Paul, la fonction de diacre. Et donc, nous voulons considérer ce matin la nécessité des avantages d'une aide officielle pour les bergers étant les pasteurs anciens, et la nécessité, les avantages d'avoir des diacres et puis l'appliquer à notre assemblée ici à Sarcelles. Écoutons donc la parole de Dieu. Acte 6, premier verset. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent : Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et que l'on rend, de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parména, et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Nous arrêtons la lecture à ce point. Nous sommes dans une partie de la Bible qui nous donne un récit, n'est-ce pas ? On vient de lire une histoire. Et l'approche, donc, est différente que lorsque nous lisons une épître. Dans les épîtres, nous avons des instructions, et on va regarder de très bien chaque mot qui nous est donné, les impératifs, etc. Ici, on n'a pas d'impératif pour nous, ici à Sarcelles, mais nous devons regarder donc, dans un récit l'histoire dans son ensemble, et puis tirer des leçons qui sont après affermies ou étoffées par d'autres passages de la Bible. Et une première leçon, juste pour commencer et bien nous mettre en route dans la considération de ces choses, c'est que la bénédiction et l'autorité du Seigneur sur son Église se réalisent à travers une administration humaine de l'Église. Alors, il y a 3 points et chacun de ces points est un peu long et a 2 fois le mot « Église ». Mais je n'ai pas pu le raccourcir, je m'excuse. La bénédiction de Dieu sur l'Église, l'autorité de Jésus sur son Église, parce que, après tout, c'est lui le maître de son Église. Comment est-ce que ça se réalise en pratique? Ça se réalise en pratique à travers une administration humaine de l'Église. C'est-à-dire tout simplement que Dieu se sert des hommes humains pour administrer son autorité. C'est lui le souverain sur son Église, mais il va se servir des humains, des hommes, pour assurer l'administration de l'Église. Administrer, c'est un verbe qui veut dire assurer la responsabilité ou le fonctionnement d'un service dont on assume la direction. Et la première phrase de ce récit dit qu'en ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, et ça continue, Jésus avait promis de bâtir son Église. Et c'est ce qui se faisait. L'Église commençait à grandir. Mais il l'a fait à travers les hommes que Jésus lui-même avait formés. C'est-à-dire, ce n'est pas tout seul que ça se faisait. Il y avait une autorité humaine qui était mise en place. Les choses ne se font pas tout seul. Et Jésus a établi des apôtres, des hommes, ils sont appelés les douze, sur son Église. Et nous pensons à tort qu'une structure d'administration n'est pas bonne et utile, ou que c'est bon et utile simplement pour pallier au manquement. Mais souvent, c'est ce qu'on pense. L'idéal serait de pouvoir vivre sans autorité, dans tous les domaines, dans le domaine de la famille, dans le domaine du gouvernement, dans le domaine de l'Église, de vivre sans aucune autorité. L'autorité, elle est là, on pense souvent, pour quand les choses vont mal. Mais en fait, le contraire est vrai. L'idéal, c'est d'avoir une structure d'autorité. Cette structure d'autorité existait avant même la chute d'Adam et Ève dans le jardin. Il y avait déjà une structure d'autorité humaine. Et voici donc comment l'Église commence. Elle est sous la direction des apôtres. Mais nous voyons dans ce récit qu'il y a un dysfonctionnement dans l'administration de l'Église. Il y a un dysfonctionnement. Et ce dysfonctionnement menace la croissance et l'unité de l'Église. Quand le leadership d'une Église est dysfonctionnel, l'unité de l'Église sera menacée et la croissance aussi sera mise en danger. Quel est le dysfonctionnement? Regardez le premier verset, vous le verrez. Quel est le mot qui nous suggère qu'il y avait quelque part un dysfonctionnement? Je commence avec la lettre N. Et voilà, il y avait une négligence quelque part. Notez ce dysfonctionnement, verset 1. Leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ce mot traduit négligé apparaît une seule fois dans la Bible. Elle a pour définition, le mot grec, accorder une attention insuffisante avec pour conséquence une réponse déficiente. Donc, laisser inaperçu ou, comme c'est bien traduit, négliger. Il y avait une négligence dans l'administration de l'Église. Il y avait une faille, il y avait un problème. Et à quelle fréquence ces distributions ont-elles été effectuées? Ces distributions se faisaient combien de fois? Faisaient, selon le verset 1, dans la distribution qui se faisait chaque jour, tous les jours, il y avait une distribution. Donc, on distribuait à ses veuves de quoi manger ce jour-là. Et demain, il fallait revenir. Quel était le rôle des apôtres dans cette distribution? Et moi, je trouve ça intéressant. Je vous demande de tourner peut-être en arrière une page, acte 4, versets 32 à 37. Et ça, c'est la question qu'on se pose en acte 4, à partir du verset 32. Quel est le rôle des apôtres dans la distribution de cette nourriture? La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Acte 4, 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Ça, c'est la première mission des apôtres, hein, et la plus importante, rendre témoignage de la résurrection de Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient où ? Verset 35. Ils les déposaient aux pieds des apôtres. C'est-à-dire que les apôtres recevaient dans leurs mains propres tous ces dons. Et l'on faisait des distributions, vous voyez ça ? À chacun selon qu'il en avait besoin. Et nous savons déjà que ces distributions étaient quotidiennes. Donc, ce n'est pas que les apôtres faisaient eux-mêmes la distribution à toutes les veuves. Il y avait certainement déjà une entraide dans ce ministère. Mais ce qu'on voit, c'est qu'ils recevaient en main propre les dons et puis dispatchaient, si vous voulez, ces dons dans différentes directions. Ils veillaient sur la distribution de ceux qui avaient été reçus. Et verset 36 nous dit que Joseph, qui a reçu de la part des apôtres un surnom de Barnabas, ce qui signifie « fils d'exhortation », il est lévite, originaire de Chypre, il vendit un champ qu'il possédait, apportant l'argent, et où est-ce qu'il va le déposer ? Encore aux pieds des apôtres. Notez la référence encore aux pieds des apôtres. Il semble qu'il y avait un moment où les apôtres prêchaient, bien sûr, ils étaient dans le temple, ailleurs, mais aussi un moment quotidien où ils recevaient, peut-être à tour de rôle, peut-être ce n'est pas tous les 12 chaque jour, mais à tour de rôle, des dons qu'on voulait faire à l'Église et aux pauvres de l'Église. Et dans le chapitre suivant, je vous invite à regarder chapitre 5, nous avons un incident qui se produit alors que Pierre est présent et reçoit les dons. Regardez 5.1. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis il apporta le reste et le déposa où ? Encore au pied des apôtres. Et qui est de garde ce jour-là ? C'est Pierre, voilà. Il y avait peut-être d'autres avec lui, mais il y a au moins Pierre qui est là. Et il lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du champ, du prix du champ ? Alors, ce n'est pas le point principal de cette histoire au chapitre 5. Mais moi, je m'en sers pour nous donner un aperçu de la vie quotidienne des apôtres. Qu'est-ce qu'ils faisaient tous les jours ? Combien de temps pensez-vous qu'il leur a fallu pour recevoir les dons lorsqu'ils étaient eux-mêmes de garde, même s'ils faisaient ça tour de rôle ? Pour compter l'argent, pour acheminer l'argent dans différentes distributions. Eh bien, on a une idée du temps que ça a pris, si vous regardez le verset 7. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce qu'à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, » répondit-elle, « c'est à ce prix-là. » Environ 3 heures plus tard, Pierre est donc toujours au même endroit. Et cela ne veut pas dire qu'il ne faisait pas autre chose, mais il n'est pas au temple en train de prêcher et il n'est pas dans sa chambre en train de prier, ça c'est sûr. Il est là en train de recevoir, de comptabiliser les dons. Et Saphira est donnée, vous voyez, elle est donnée ici la possibilité de dire la vérité et a choisi de mentir comme son mari. Mais notons que Pierre ici doit s'informer du prix de la vente, etc. C'est-à-dire il fait le travail d'un trésorier. En comptant les dons, etc. Et donc, il y avait un dysfonctionnement dans ce domaine-là. Et notez la menace. Parce que nous avons dit qu'un dysfonctionnement crée une menace. Où est la menace ? Il y a une menace à l'unité. Et ça, on le trouve dans quel mot du premier verset ? Il y avait une négligence, mais après la négligence, il y avait des murmures. Murmures. Et je vous assure, les murmures ne sont jamais une aide à l'unité. Les hellénistes, il dit, murmurèrent contre les Hébreux. Alors, c'est qui les hellénistes et c'est qui les Hébreux ? Les hellénistes, ce sont des Juifs. Ce sont des Juifs. Il n'y a même pas encore de païens dans l'Église à cette époque. Mais ce sont des Juifs qui parlent grec, c'est leur langue même maternelle, et ils se comportent aussi comme des Grecs. Hein. C'est des gens, souvent, ils ont voyagé ailleurs, ils ont déménagé ailleurs, et ils ont pris la culture, c'est comme des Juifs en France, ils vont vivre plutôt comme des Français, et des Juifs, peut-être en Pologne, vont être des Polonais, et puis il y a des Juifs vraiment qui vivent en Israël, qui parlent la langue et tout. Et un Juif qui arrive d'ailleurs, il ne sait même pas parler l'hébreu, et voilà, c'est... Parfois, ils sont reçus avec méfiance. Je lis ça même dans les infos, parfois, des Juifs qui viennent d'ailleurs. C'est un peu ce qui se passe ici. Il y a toujours eu une rivalité entre ces deux groupes, hein, dans la culture juive. Et la tragédie qu'on voit ici, c'est que ça commence à imprégner et arriver dans l'Église elle-même. Quoique Jésus a aboli de telles distinctions. Et on sent qu'il y a un murmure qui arrive contre les Hébreux. Là, elles sont bien prises en charge, mais nos veuves à nous, elles ne sont pas bien prises en charge. Et vous savez que le jour de Pentecôte, beaucoup de Juifs sont venus, beaucoup d'Hellénistes, et ils ont reçu le Seigneur. Et beaucoup sont restés. Ils n'avaient pas de maison, ils n'avaient pas de travail. Et donc, tout de suite, il y avait un très, très grand besoin pour tous ces chrétiens qu'on pourvoie à leurs besoins. Il y avait des veuves qui en avaient besoin. Ça, c'est la menace à l'unité. Notez aussi la menace à la croissance. Où est-ce qu'on voit la menace à la croissance? On voit dans la façon que Luc nous rapporte cette histoire. C'est lui l'auteur humain des Actes. Il présente cet incident comme une interruption à la croissance. Regardez le premier verset. « En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. » Vous voyez ce mot? Vous pouvez tirer un trait depuis ce mot jusqu'au même mot au verset 7, qui est la fin de cette histoire. « La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait. » Beaucoup à Jérusalem, c'est exactement le même mot. Et une grande foule de sacrificateurs obéissaient à la foi. Pourquoi le même mot encadre cette histoire au début et puis encore à la fin? C'est pour montrer que ce problème était une vraie menace à la croissance. C'est présenté presque comme une parenthèse. La croissance s'arrête, il y a ce problème et il faut bien gérer ce problème. Si ce problème n'est pas géré, ça va peut-être casser maintenant l'unité et la croissance de l'Église. Le problème doit être réglé pour que la croissance reparte. Et Luc construit l'histoire de façon à démontrer que le désastre a été évité et qu'un ministère fructueux va pouvoir recommencer parce qu'ils ont bien géré le problème. Mais c'était quand même une menace à la croissance de l'Église. Vous voyez, il y a une importance donc, dans la direction de l'Église, dans le fonctionnement de l'Église, dans l'administration de l'Église, est très, très important pour l'unité, pour la croissance de l'Église. Alors, troisièmement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous voyons, troisièmement, une aide officielle est nommée par l'Église pour assurer une meilleure administration de l'Église. Ça, c'est ce qu'ils vont faire. Ils vont nommer une aide officiel. Il y aura 7 hommes. Et pourquoi est-ce que l'Église et les apôtres vont nommer cette aide? Eh bien, pour assurer une meilleure administration de l'Église. Alors, d'abord, notez ce qu'ils ne font pas. Ça, c'est important. Qu'est-ce qu'ils ne font pas? D'abord, ils ne nient pas le problème. C'est une tentation, parfois. Ce n'est pas vraiment un problème. Deuxièmement, ils ne minimisent pas le problème. Ça peut se faire aussi. Troisièmement, ils ne culpabilisent pas les plaignants. Ils ne disent pas, ah, vous devez vous réjouir, allez, arrêtez. Et aussi, nous voyons qu'ils n'essayent pas de s'attaquer seuls au problème. Les apôtres ne vont pas se dire, ok, on va se voir ça à 12, on va attaquer, on va régler le problème et on va tout faire tout seul. Regardez ce qu'ils font, verset 2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. Et acte 2, chapitre 42, nous dit qu'ils persévérèrent dans l'enseignement des apôtres, hein, donc dans la prédication, dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prière. Mais ici, ils vont convoquer toute l'assemblée pour faire quelque chose de différent, en fait. Ils ne vont pas prêcher, ce n'est pas que la communion fraternelle, ce n'est pas que la prière, ce n'est pas la table du Seigneur. On peut dire que c'est la première assemblée générale de l'Église. Et ils vont dire à l'Église, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Donc, les apôtres donnent à l'Église, d'abord, le nombre d'hommes recherchés, probablement choisis pour correspondre aux besoins, hein, ils disent qu'il faut sept. Les qualités requises dans ces hommes, ils disent verset 3, ça doit être des hommes de qui on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et puis, il leur dit la charge qui leur sera confiée. Il dit, nous les chargerons de cet emploi, ou de ce travail, ou de ce service. Le Darby dit, nous les établirons sur cette affaire. Et la prochaine occurrence de ce mot traduit « charger » ou « établir » est dans la bouche d'un de ces hommes, qui s'appelle Étienne, c'est dans le chapitre suivant, au chapitre 7 et verset 10, quand il parle de Joseph et il dit que Dieu l'a établi gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Ça, c'est Pharaon qui l'a fait en l'occurrence. Mais il a établi Joseph gouverneur. Donc, c'est un mot qui porte de l'importance. On va les établir sur une charge importante. Ces hommes ont donc une charge beaucoup plus importante que simplement la responsabilité de livrer de la nourriture à ces veuves. On leur confie la charge, on leur confie la responsabilité de tout ce ministère. En somme, ce ne sera plus Pierre qui va recevoir les dons. Maintenant, on va le déposer ses dons au pied de ses sept. Eux, ils vont les comptabiliser, eux, ils vont les compter, eux, ils vont les acheminer, eux, ils vont prendre soin de ce ministère. Eux, ils vont administrer, ils vont assurer le fonctionnement d'un service dont ils ont assumé la direction. Et c'est précisément à ce niveau d'administration que les apôtres cherchent de l'aide. Mais ce mot chargé, donc j'ai dit c'est important, mais ça communique aussi qu'ils sont quand même toujours sous la responsabilité des apôtres. Hein? C'est pas des hommes qui se chargent eux-mêmes de cette responsabilité, ils sont chargés. Et souvent, presque chaque fois que j'ai cherché, on utilise ce mot pour parler d'un supérieur qui va charger un serviteur à faire quelque chose. Donc, Jésus dit en Matthieu 25, 21, son maître lui dit, c'est bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai, c'est ce même mot, je te confierai, beaucoup entre dans la joie de ton maître. Donc, il y a cette réponse. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, quelle est l'utilité de cette assistance? Et je vais vous noter deux choses qui ressortent, je crois, très visiblement de ce passage. D'abord, cette assistance administrative, hein, que sont ces sept, qui sont, on peut considérer comme les premiers diacres, même s'ils n'ont pas ce nom. Ça sert, nous le voyons, à préserver l'unité de l'Église en assurant son bon fonctionnement. Ça c'est la première motivation. Il y a un problème, il y a des murmures, il faut assurer l'unité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ces hommes-là vont nous aider à assurer l'unité de l'Église. Regardez le verset 5. Cette proposition plut à toute l'Assemblée et Isélure, Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménin et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Alors, quelle est la signification de cette liste? Pourquoi Luc choisit-il de noter tous ces noms? Parce que parfois, il ne le fait pas. Pourquoi ces sept noms? Eh bien, probablement, et ça, c'est un point important, mais c'est facile à ne pas le voir dans notre contexte français, probablement parce que ce sont tous des noms grecs. Ce sont des noms grecs. Ce sont tous des hellénistes. Et regardez encore le premier verset. Qui était négligé dans la distribution quotidienne? C'étaient les veuves hellénistes. C'est frappant. Qui va-t-on nommer pour administrer maintenant ce ministère auprès des veuves? Des hommes de culture grecque, de langue grec. Quelqu'un a dit que cette liste de noms est l'apothéose cachée de toute cette histoire. Apparemment, les Hébreux de l'Église attachaient tellement d'importance à l'unité qu'ils ont fait tout dans leur pouvoir de prendre soin de leur sœur helléniste, allant même jusqu'à confier leur propre veuve à ses frères issus d'une culture grecque peu familière. C'est-à-dire, l'Église dit, en fait, même les Hébreux, hein, qui sont majoritaires là, ils disent en fait, vous sept, vous hellénistes, vous allez prendre soin de toutes les veuves, même de nos veuves à nous. Donc, vous voyez, ce n'est pas quelque chose d'être politiquement correct, d'avoir un quota, ok, on est 60% hébreux, 40% hellénistes, donc il faut le même pourcentage. Alors, on aime bien parler de ces choses dans la politique hein, de nos jours, mais il s'agissait d'une solidarité que nous avons en Christ à cause de la nouvelle alliance et ce désir, comme dit Romains 12, 10, de rivaliser d'estime réciproque les uns envers les autres. Et la preuve que la négligence n'était pas plus que cela, hein, que ce n'était pas un désir de la part des apôtres, c'était vraiment une négligence et pas plus. Ce n'était pas, par exemple, la discrimination volontaire. La preuve, c'est que l'Assemblée a choisi ses meilleurs éléments pour prendre soin de ses membres les plus faibles. Choisi des hommes vraiment de calibre. On va entendre plus tard d'Étienne, il va être le premier martyr, et on va entendre encore d'un autre qui va se servir comme évangéliste même dans la foi, dans la croissance de l'Église. Ça, c'est l'amour réciproque à l'œuvre. Ces hommes donc, avaient pour mission de préserver l'unité de l'Église. Et nous voyons ici le cœur d'un bon diacre. Un bon diacre veut garder l'unité de l'esprit. Il veut veiller à ce que personne ne soit écarté, oublié, négligé. Il voit ce que les anciens peut-être ont négligé, pas par volonté, mais par faiblesse. Et ils veulent préserver. Ils veulent pas causer des problèmes, créer des problèmes, mais résoudre les problèmes. Mais dès qu'on entre dans le domaine de conflit, il faut montrer beaucoup de sagesse, beaucoup de patience, beaucoup de grâce. Et c'est pour ça, il dit au verset 3, « Choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse. » Vous voyez le bénéfice, les avantages d'avoir cette aide officielle pour une église en croissance. Elle permet de préserver l'unité, parce qu'il y a une aide qui regarde et qui veille sur ce qui autrement aurait été négligé. Mais une deuxième chose, et c'est que cette assistance administrative sert aussi à décharger les apôtres, hein, qui étaient aussi pasteurs, d'une partie de leur charge, leur permettant de se concentrer sur le ministère de la parole et de la prière. En fait, Ce nouveau formule, si vous voulez, avec l'établissement officiel de ces sept qui auront un rôle officiel et responsable au sein de l'Église, apporte un changement immédiat à l'Église, mais aussi aux apôtres. Regardez le verset 2, 6-2. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions quoi ? La parole de Dieu » pour servir aux tables. Et puis, comparer ça au verset 4, et nous, donc ils vont établir ces autres hommes, pour que nous les 12, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Le ministère de ces hommes ne va pas seulement bénéficier l'Église, il va avoir un impact direct et même, je peux dire, colossal sur la vie quotidienne des apôtres. Imaginez le gain de temps pour Pierre et pour les autres quand ces hommes prennent soin maintenant de ce ministère. Voici des hommes en qui ils ont une confiance inébranlable. Ils ont une parfaite confiance en eux. Ils n'ont pas besoin de craindre qu'il y ait une négligence de leur part qui va les porter préjudice. Au contraire, ils savent que ces sept vont mieux faire que eux ils ont pu faire dans ce domaine. Et les apôtres apprennent une leçon importante, comme tout pasteur doit l'apprendre, c'est qu'ils ne peuvent pas tout faire. Et que d'autres peuvent faire certaines choses, même mieux qu'eux puissent le faire. Ils ne sont pas autosuffisants, même les apôtres. Ils ont besoin des autres membres du corps tout autant que les autres membres du corps ont besoin d'eux. Parce qu'un pasteur, avant tout, n'est qu'un membre du corps. Il a une fonction dans le corps, mais il n'est pas le corps. Il n'est simplement un membre parmi beaucoup. Et cela leur permet donc de concentrer leur temps et leur énergie sur ce qui est leur vocation spécifique au sein de l'Église. Quand nous appliquons cela à la présence de diacres au sein d'une Église locale, nous pouvons constater que les diacres servent efficacement, contribuent non seulement à l'unité de l'Église, mais permettent aussi aux anciens, aux pasteurs, de se concentrer sur leur vocation spécifique. Il dit, verset 2, encore, je vous lis dans la Summer, « Il ne serait pas légitime que nous arrêtions de proclamer la parole de Dieu pour nous occuper des distributions. » Il y a certaines choses où ce n'est pas légitime, ce n'est pas convenable que le pasteur et les anciens se donnent à ça. Et ça nous pousse à poser la question, mais qu'est-ce que veut vraiment une église d'un pasteur? Qu'est-ce que vous voulez vraiment d'un pasteur? Quelle est la vocation dans votre esprit d'un bon pasteur? Alors, j'ai cherché sur Internet le pasteur parfait. Je vais vous lire la description. Le pasteur parfait prêche exactement 10 minutes. Il condamne fermement le péché, mais ne blesse jamais personne. Il se dévoue de 8h à minuit au ministère de la parole et à la prière, et il est également le concierge du temple. Le pasteur parfait gagne 40 € par semaine, pourvoit tous les besoins de sa famille, donne à de multiples œuvres de charité, achète de bons livres et donne 30 € par semaine à l'église. Il a 29 ans avec 40 ans d'expérience. Le pasteur parfait a un désir ardent de travailler avec des adolescents et passe la plupart de son temps avec les personnes âgées. Il sourit tout le temps et garde son sérieux, car il a le sens d'humeur qui lui permet de consacrer sérieusement à son église. Il fait 15 visites à domicile par jour et il est toujours dans son bureau pour être utile en cas de besoin. Le pasteur parfait a toujours du temps pour les membres de l'église et est toujours occupé à évangéliser ceux qui ne sont pas. Le pasteur parfait est toujours dans une autre église. Voilà. Ça vient de l'Internet, hein, pas de la Bible. Mais ça souligne le fait qu'un pasteur ne peut pas tout faire. Et s'il ne peut pas tout faire, à quoi doit-il se concentrer? Les apôtres ne minimisent pas l'importance de ce ministère auprès des veuves. En fait, ils leur donnent une grande importance. Mais ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas s'occuper de tout d'une façon efficace et qui peuvent confier certaines tâches à d'autres afin de donner la priorité à d'autres qui leur incombent. Et donc il dit au verset 4, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Ou dans d'autres traductions, cela nous permettra de nous consacrer à la prière et au service de l'enseignement. Ou dans une autre traduction, nous continuerons fidèlement à faire ces choses. La NBS dit, nous consacrerons assidûment. Ça, c'est vraiment un mot très fort. On va se donner assidûment à la parole et à la prière. Et vous savez peut-être que dans sa toute dernière lettre, Paul dit au pasteur Timothée, de Timothée 4, 2, « Je te conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts au sein de son avènement et de son royaume. » Toute cette introduction pour lui dire quoi? Je te conjure, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Ça, c'est vraiment le point central, l'instruction de la parole de Dieu. Une église va souffrir si ses anciens ne se consacrent pas assidûment à ce ministère de la parole. Même si ce type de ministère est peu prisé de nos jours. Il y a beaucoup d'églises, en fait, où on ne choisit pas l'église en fonction de la prédication et de l'enseignement, mais en fonction des programmes qu'ils ont, ou de la musique qu'ils offrent, ou de l'atmosphère qu'ils nous donnent. Mais ce qui est au centre de ce qui est un ministère pour l'Église, il donne peu d'importance. Et de Timothée même, on parle de ça. Et un commentateur a proposé, avec perspicacité, je crois qu'Axis présente un stratagème satanique de dernier recours. Il dit que c'est le point culminant sur trois fronts. Le diable a d'abord attaqué l'Église au chapitre 4 par la persécution. Je vous dis, le chapitre 4, c'est la persécution qui vient de l'extérieur. Est-ce qu'il va pouvoir vaincre l'Église par la persécution? Ça marche ou non? Non, par la grâce de Dieu, ça ne marche pas. Et l'Église commence à croître. Au chapitre 5, qu'est-ce qu'il tente? Quelque chose de beaucoup plus perfide et pire. Il essaye d'attaquer l'Église par la corruption qui vient de l'intérieur. Hein, c'est cette histoire avec Ananias et Saphira qui vont, ils donnent de l'argent pour les pauvres, mais ils mentent en même temps. Et là, maintenant, la corruption vient de l'intérieur. Et là, par la grâce de Dieu, ils sont exposés, l'Église est purifiée et elle peut progresser. Dans la persécution qui vient de l'extérieur, la corruption qui vient de l'intérieur ne marche pas, ça a échoué. Et puis, cette attaque suivante du diable, plus intelligente des trois, n'ayant pas réussi, il dit, je cite maintenant, à vaincre l'Église par la persécution, par la corruption, il a maintenant essayé la distraction. S'il pouvait distraire les apôtres par l'administration sociale, qui, bien qu'essentielle, n'était pas leur vocation, ils négligeraient leur responsabilité donnée par Dieu de prier, de prêcher, et ainsi laisseraient l'Église sans aucune défense contre la fausse doctrine. Donc, sans minimiser l'importance de s'occuper des veuves, les apôtres précisent l'objet de leur propre travail. Ils vont consacrer leur meilleure énergie à guider l'Église par l'enseignement et la prière. Notez le jeu de mots rendu littéralement. Hein. Il n'est pas juste que nous abandonnions la prédication de la parole pour diaconiser. C'est le mot diacre hein, qui veut dire servir. Pour diaconiser les tables. Mais nous nous consacrerons à la prière et à la diocanie de la parole. Nous on va toujours diaconiser, on va toujours servir, mais pas dans ce domaine, les distributions, mais le domaine de la parole. C'est-à-dire l'enseignement de la parole, la prédication, l'application, etc. Donc, comme application, je crois qu'en Axis, nous avons les sept hein, qui viennent en aide aux douze. Mais plus tard dans les épîtres, nous verrons, j'espère un jour, que Dieu va établir dans les églises les anciens, aussi appelés pasteurs ou responsables évêques, mais aussi des diacres qui vont venir en aide aux pasteurs. Et c'est le même type de relation entre les deux. Il n'est pas convenable ou légitime, pour utiliser le mot là au verset 2, pour un pasteur ou un ancien de laisser de côté la parole, même si c'est pour servir à d'autres tâches qui sont importantes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas se servir à d'autres tâches, mais si pour faire cela, il doit laisser le ministère de la parole, ce n'est pas convenable. Ce n'est pas bon. Imaginez un PME, une entreprise qui a tout le personnel nécessaire, mais qui a inverti les rôles de chacun. Donc, chacun fait un rôle de quelqu'un d'autre. Au minimum, ça va créer la frustration et un manque d'efficacité, et au maximum, ça va créer le chaos total. Parce qu'on peut avoir les bonnes personnes, mais on doit trouver la bonne fonction aussi, le bon rôle pour chacun. Et c'est l'une des leçons de cette histoire, que ces hommes, ces sept, ne sont pas moins spirituels que les apôtres. Ils n'ont pas moins de l'Esprit Saint que les apôtres, mais ils ont des appels et des responsabilités différents. Les apôtres, donc, il y a une leçon pour les trois catégories. Les apôtres doivent apprendre à déléguer. Et c'est ce problème qui leur fait voir qu'il y a ce besoin. L'Église doit apprendre à accepter une répartition de responsabilités. C'est-à-dire, je ne peux pas toujours aller voir Pierre. Hein. Moi, je veux donner mon don à Pierre. Non, non, non. Donc, l'Église aussi doit accepter la répartition de responsabilités. Et les diacres, ces sept-là, ils doivent accepter que ce qu'ils font, même si cela semble parfois insignifiant, ce n'est pas eux qui vont guérir les malades, qui vont prêcher, etc., mais ça contribue quand même à l'efficacité du ministère des apôtres. Eux, ils contribuent au ministère de Pierre, en remplissant bien leur parole. Et Dieu nous a bénis ici avec plusieurs hommes et femmes qui travaillent pour le bien de cette assemblée. Je suis très reconnaissant pour vous. Vous faites le travail du ministère. Et franchement, il n'y a rien de mieux que servir Christ en servant l'Église pour qui Jésus-Christ est mort. Si vous voulez aimer Jésus, vous allez aimer son Église. C'est sa femme. Et même si ça paraît insignifiant, si c'est le rôle que Dieu me donne, c'est grand à ses yeux et ce sera récompensé aussi. Le fait de nommer des diacres est une étape importante pour nous. Mais on ne veut pas suggérer, en faisant ça, que ceux qui ne sont pas diacres sont moins importants à l'œuvre du Seigneur dans ce lieu. On veut être très, très clair là-dessus. Ce n'est pas que les autres sont moins importants. Il y a en fait très peu de rôles officiels dans l'Église. Et une raison pour cela, je pense, c'est que c'est pour valoriser l'importance de chacun. J'ai vu des églises où ils ont multiplié les titres et les rôles. Donc ils essaient de trouver un titre et un rôle pour presque chaque personne. Mais le danger est que le membre termine par attacher son importance à son rôle ou à son titre. Et puis, on ne peut pas donner le même titre à tout le monde. Donc, pourquoi je n'ai pas son titre? Pourquoi je n'ai pas son rôle? Et puis, il y a peut-être quelques-uns qui n'ont pas de titre. Et ouais, je n'ai pas d'importance après dans l'Église. Ils se sentent comme ça. Mais l'enseignant de la Bible, et comprenez-le bien, mon cœur aussi, votre importance ne se trouve pas dans le titre qu'on vous donne, mais dans votre participation organique à ce corps. Tout ce qu'on doit faire, encourager les uns les autres, prier les uns pour les autres, exhorter les uns les autres, aimer les uns les autres, pouvoir aux besoins les uns des autres, tout ça, il n'y a pas de titre pour ces choses. J'étais il y a que quelques semaines à Ris-Orangis et quand je suis arrivé, il y a un monsieur qui m'a ouvert la porte, m'a dit bonjour et puis plus tard, on était assis en face l'un de l'autre et je le remerciais pour son accueil. Il a dit, ah, mais ça fait 30 ans que le Seigneur m'a mis à la porte. Et c'est un peu sa blague. Mais depuis tout ce temps, c'est ce qu'il fait. Il se met à la porte et il ouvre la porte. Il dit bonjour. Et il se donne aussi à l'exercice de l'hospitalité. Il reçoit les gens dans leur maison. Et j'ai même trouvé qu'ils avaient reçu mes parents une fois dans leur maison. C'était vraiment de bons retrouvailles. Je ne connaissais pas avant. Mais il est heureux. Ça, c'est son ministère. Dieu l'a mis à la porte, comme il dit, et il est content avec cela. Donc, en nommant des diacres, nous ne minimisons pas l'importance des autres, mais il est biblique de nommer des hommes qui peuvent aider les anciens à organiser, à veiller sur différents ministères de l'Église. Et cela fait plus de 2 ans vraiment depuis le début, mais 2 ans que, sérieusement, on réfléchit à ce que le Seigneur voudrait pour nous. Je parle de les quatre pasteurs, moi avec les 3 pasteurs à Saint-Denis. Et il y a plus un an et demi, je crois, qu'on a réfléchi à 2 hommes. Et il y a plusieurs mois, j'ai parlé avec ces 2 hommes. Je leur ai donné le temps de réfléchir, de prier. Plus récemment, nous avons eu 3 rencontres ensemble pour discuter ce ministère, ce que c'est un diacre, pour quand il accepte, il ne soit pas surpris. Et je pense au frère Maxime et au frère Joseph. Voilà, que depuis maintenant 2 ans, on prie par rapport à ces hommes. Et ce que les anciens veulent faire, c'est de les présenter lors de notre prochaine assemblée générale, donc qui sera au printemps de l'année prochaine, comme les premiers diacres de notre Église. Cela donne beaucoup de temps à toute l'Assemblée de prier, de parler avec eux, de parler avec moi ou les autres pasteurs, si vous avez des questions là-dessus. Mais voilà, ça peut être un temps où le Seigneur nous fait avancer, mais en même temps, on ne veut pas qu'il y ait de jalousie, ou de penser que voilà, je suis moins important si moi je ne fais pas partie de ces 2. Non, on apprécie, on a besoin de chaque personne ici, mais nous voulons nous conformer au plus près que possible à ce formule que Dieu nous donne dans sa parole. Quelle grâce, en fait, pour nous, en tant qu'assemblée, d'avoir la possibilité de nommer une aide officielle. Et nous devons prier pour ces hommes, nous devons prier pour les pasteurs, nous devons prier pour cette Église, que Dieu nous aide et nous préserve de toute chute. Un bon fonctionnement sous le regard du Seigneur sera la bénédiction de nous tous. Prions le Seigneur. Grand Dieu, nous te louons de ce que c'est toi qui as conçu l'Église. L'Église locale n'est pas le fruit d'une pensée humaine, mais divine. Et tu l'as construit encore activement, Seigneur Jésus. Tu bâtis ton Église. Et même la direction de ces églises locales. C'est toi qui en assumes la responsabilité souveraine. Mais c'est toi qui as aussi conçu l'administration humaine qu'il y aurait sur ces églises. Et nous voulons nous conformer à ta volonté. Et nous prions que tu nous bénisses, que tu nous donnes ta grâce, que tu nous donnes ta miséricorde et ta force en abondance. Et que tu permets à cette Église de croître d'une bonne manière. Comme il dit en Actes, croître dans la parole et dans la foi. Et que tu sauves les âmes des pécheurs qui nous entourent et que tu nous aides dans les années qui nous suivent à être de plus en plus efficaces dans ce que nous faisons pour ta gloire. Et nous prions ces choses au nom de Christ, notre Seigneur, lui qui nous a servi si humblement, donnant sa vie. Qu'il soit glorifié.